Chapitre 3. Alain de Painvalas, désireux que son mariage fût célébré le plus tôt possible, s'occupait activement de toutes les démarches nécessaires. Celles-ci se trouvaient un peu compliquées par le fait que la tutelle était entre les mains d'Otto Mühlbach, sujet allemand. Mais l'émancipation ayant été demandée par le conseil de famille, tout s'arrangea relativement assez vite grâce à des influences que put faire agir M. de Painvalas, et le mariage fut fixé au début du mois d'août. Florita se remettait promptement. Le bonheur, mieux que tout, contribuait à lui rendre les forces perdues. Sa blessure se cicatrisait, ses cheveux repoussaient, formant sur sa tête charmante des boucles que baisait amoureusement Alain. « Tu n'as jamais été plus jolie, ma fleurette, » déclarait-il. De fait, tous ceux qui venaient à Runesto pour rendre visite au châtelain restait sous le charme de cette beauté délicieuse, de cette grâce toute simple et très aristocratique, de cette ardente et pure lumière qui éclairait les admirables prunelles veloutées. Mais la mémoire de la jeune fille demeurait toujours comme voilée. Très vite, toutefois, ce qui avait trait au passé antérieur à la guerre lui revenait à l'esprit, dès qu'Alain lui rappelait tel ou tel fait. Le jeune homme attendait qu'elle fût complètement remise pour réveiller son souvenir au sujet de ce qui s'était passé à Vanel, pour lui demander de compléter certaines confidences hâtivement glissées à l'oreille, telles par exemple celles qui avaient trait à Elsa. Cependant, à la réflexion, il changea d'avis sur ce dernier point, étant donné la gravité du fait, car la présence de cette femme parmi les blessés français représentait un grand danger, sans parler de tout le mal qu'elle pouvait faire par ailleurs. Donc, un après-midi, tandis qu'il causait avec sa fiancée dans le jardin de Runesto, il amena doucement la conversation sur l'ancienne pupille de la marquise. D'abord, il parla de Maurice, de ses derniers moments qui avaient été meilleurs que sa vie. Le pauvre garçon a, paraît-il, prononcé mon nom, puis il a dit « Ah, qu'il avait raison !» Il pensait probablement à ce que tu lui avais annoncé au sujet de son mariage. Oui, déjà il avait pu s'apercevoir de ce que valait cette femme. Et peut-être même était-elle encore pire qu'il ne le croyait. Comment cela? Ne m'as-tu pas dit qu'elle était, non pas une Suissesse, mais une Allemande, et qu'elle ne s'appelait pas réellement Elsa Hoffel? La physionomie de Florita exprima une surprise mêlée de perplexité. « Je t'ai dit cela ?»« Oui, à Vanel. »« À Vanel ?» Visiblement, elle cherchait au fond de sa mémoire. « Vanel, le château de Maurice, où tu habitais avec ta tante Pépita. On m'a apporté là, blessée, tu sais bien, et tu venais me voir. » Elle eut un vif mouvement, une exclamation. « Ah oui, je me souviens, tu étais là avec d'autres blessés français. Puis un jour, cet homme est entré. » Elle frissonna avec un effroi dans le regard. « Comment donc s'appelle-t-il ? Le baron de Reichensfeld. Mais ne pense pas à lui, chérie. Maintenant tu es délivrée de ce misérable, ainsi que d'Otto Mühlbach. Toutefois, si cela ne te fatigue pas, tâche de te souvenir de ce que tu m'as dit au sujet d'Elsa. » Elle chercha un moment, puis secoua la tête. « Je ne trouve rien. Mais tu sais, ami, cela peut me venir tout d'un coup. » De fait, à mesure que sa santé se rétablissait, qu'elle reprenait la vie normale, elle avait de subits retours de mémoire, assez rares encore, d'ailleurs, parfois très fugitifs. Un véritable éclair, se disait-elle, et puis c'est de nouveau l'obscurité. Mais il y avait là d'excellents présages d'une guérison complète, que tous les médecins consultés s'accordaient à pronostiquer, qui pouvait se produire dans quelques mois, peu à peu, ou bien brusquement un beau jour, sous quelque mystérieuse influence. Cet après-midi-là, Alain ne poussa pas plus loin ses investigations, dans la crainte de fatiguer la jeune fille. Il attendait une autre occasion de lui reparler d'Elsa. Dans l'après-midi du lendemain, M. Barwell se présenta au château, venant demander des nouvelles de Mademoiselle de Valserre, sa jeune propriétaire, comme il se plaisait à l'appeler. Jusqu'alors, il en avait fait prendre plus d'une fois par un de ses domestiques. Mais aujourd'hui, lui-même venait, désireux, disait-il, de présenter en même temps ses hommages à Madame de Painvalas. La marquise le reçut aimablement, causa un moment avec lui. Puis Alain survint, retint le visiteur qui allait partir. Les deux hommes, tout en fumant, parlèrent de la guerre. L'anglais se montrait fort patriote, et témoignait d'un vif enthousiasme pour l'armée française. D'admirables soldats, des chefs incomparables, et maintenant un armement supérieur. Que ne peut-on faire avec cela? Mais il est bien dommage, et de ce reproche mon pays peut avoir sa part, il est bien dommage que la France ne se défende pas mieux à l'intérieur contre les espions allemands. C'est en effet une coupable négligence dont on connaîtra plus tard les effets désastreux. L'Anglais tira une bouffée de son cigare, puis il demanda. « Vous avez dû passer de durs moments, mademoiselle de Valserre et vous. »« Très dur, en effet. Ma fiancée a été d'un courage héroïque. » On dit que son oncle la tenait prisonnière. C'est exact. Monsieur Mulbar était un pan-germaniste farouche, en même temps qu'un des pires hypocrites que la terre ait porté. Il était encore autre chose. Ici, le jeune homme s'interrompit, n'ayant pas le désir de faire connaître à cet étranger que l'oncle de sa future femme avait été un des meilleurs agents de l'espionnage allemand. Monsieur Barouel hocha la tête. Et tout cela a dû être fort désagréable pour la pauvre jeune fille. Heureusement, elle avait sa tante. Madame Mulbar obéissait aveuglément à l'influence de son mari. Dans ces derniers jours seulement, ses yeux se sont ouverts, et elle a pu mettre en garde sa nièce contre cet homme. « Ah, vraiment ?» Les yeux de l'Anglais clignotaient tout à coup. Puis il ajouta avec un rire discret. « Je crois que si Monsieur Mulbar l'avait su, il n'aurait pas été enchanté, surtout si les révélations de sa femme avaient trait à quelque chose de sérieux. » Alain eut un geste évasif. Il ne lui convenait pas de s'étendre sur ce sujet, et l'Anglais, toujours discret, n'insista pas. Un peu après, Florita apparut sur la terrasse où fumaient les deux hommes. Elle échangea quelques mots avec M. Barouel, lui demanda s'il se plaisait toujours à Kéréven. « Toujours, mademoiselle, et ma femme encore plus que moi. Comment va-t-elle » Il soupira. « pas bien du tout au point de vue mental. » Et les événements terribles par lesquels nous passons ne sont pas pour la remettre. Non, hélas. Elle sort toujours? De temps à autre, oui. Et c'est certainement à Kéréven qu'elle se porte mieux. Aussi a-t-elle refusé cet hiver de le quitter. Vous avez dû subir des temps affreux là-bas. Je crois bien, mais nous sommes aguerris, et ma femme se trouve là comme dans son élément. C'est très curieux. Là-dessus, Monsieur Barouel prit congé de ses hôtes. Alain le reconduisit jusqu'à la cour. Chemin faisant, l'Anglais laissa voir la surprise admirative que lui avait causée mademoiselle de Valserre. « Je ne l'avais pas vue depuis 2 ans, c'est une merveille de beauté !» Alain sourit, tandis qu'une lueur ardente passait dans son regard. « Oui, elle est admirablement belle, et ce qui vaut mieux encore, elle a toutes les vertus féminines, y compris la plus délicate bonté. Cela se voit sur sa physionomie. « Vraiment, monsieur, je ne puis que vous renouveler mes plus vives félicitations. » Comme, en ce moment, les deux hommes passaient au pied de la vieille tour, l'Anglais s'arrêta pour la considérer. « Elle exerce décidément sur moi une singulière attraction. Comme le dit quelquefois ma femme, je suis toqué de ces restes du passé. Il faudra revenir la voir, si elle vous intéresse tant. » « Avec plaisir. » « Eh bien, à l'un de ces jours. » Ils se serrèrent la main. Puis M. Barouel fit un mouvement pour s'éloigner, mais se ravisant, il demanda « Et votre pauvre cousin, M. de Ronchet, j'ai appris sa mort il y a peu de temps. » « Oui, il a été tué dans les Vosges en novembre dernier. Pauvre garçon, j'en ai éprouvé une grande peine car nous avons été élevés ensemble. À cause de son mariage avec cette mademoiselle Offel, nous ne nous voyions plus. Il s'était laissé prendre par cette intrigante, une habile hypocrite s'il en fut. » « Oui, c'est ce que j'ai entendu dire. Je ne m'en serais pas douté. Elle paraissait très bien, de toute façon. » Alain eut un ironique sourire. « Je n'ai jamais eu cette opinion sur elle, car elle m'a toujours inspiré une certaine défiance que les faits sont venus justifier. Et j'en suis à me demander même si sa nationalité est bien réelle. Oh, par exemple, qui vous fait penser ?»« Un mot, dit par ma fiancée. Malheureusement, celle-ci n'a pas retrouvé toute sa mémoire. » et n'a pu encore me donner de détails à ce sujet. Mais j'espère arriver bientôt à être fixée sur ce point très important, car ce serait un devoir de dévoiler cette femme qui exerce les fonctions d'infirmière dans un hôpital organisé par elle. Sous ce couvert, il lui serait facile de faire beaucoup de mal. En effet, mais je veux croire que vos soupçons ne sont pas fondés. Moi aussi, je veux l'espérer. De toute façon, ce me serait fort désagréable, cette femme portant le nom de mon cousin. Cette fois, M. Barwell prit définitivement congé du jeune châtelain. Et d'un pas un peu hâtif, le pseudo-anglais s'en fut vers Kerhaven. Il entra dans le salon, dont les deux fenêtres étroites, grillées, laissaient entrer l'air tiède de cet après-midi printanier qui déjà sentait l'été proche. Près d'une table, un homme était assis dans un fauteuil profond, recouvert de tapisseries fanées. Il tenait ses jambes étendues, et l'une de celles-ci était une jambe de bois. Un bandeau de soie noire lui cachait l'œil droit. L'autre, bleu et froid, se tourna vers l'arrivant, tandis qu'une voix brève demandait « Eh bien, Elmer, vous êtes content de votre visite ?»« Content, oui, en un sens, monsieur le baron. »« Comment cela ?»« J'ai appris des choses ennuyeuses, mais nécessaires à connaître. » Ah, lesquelles donc ? Elmer enleva son chapeau, sortit un mouchoir pour éponger son front moite et s'assit près du baron. Voilà, j'ai compris que monsieur de Pinvalas avait de forts soupçons au sujet du rôle joué en France avant la guerre par Otto Mühlbach. Cela ne m'étonne pas, mademoiselle de Valserre, qui est fort intelligente, n'a pas été sans deviner quelque chose de la vérité, surtout que Mühlbach, la croyant définitivement sous sa coupe, ne se gênait plus pour paraître ce qu'il était, un fougueux pangermaniste. Mais enfin, cela n'a qu'une importance minime. Mühlbach, là-bas, est en sûreté, sa fortune est à l'étranger. Son frère, il est vrai, peut en avoir quelques désagréments, mais, bah, les Français oublient si vite. Parions qu'après la guerre, cet excellent Otto s'installera de nouveau à Paris, et y sera aussi bien vu qu'auparavant. Je ne dis pas non, et il y fera encore de bonnes besognes. Mais il y a autre chose. Mademoiselle de Valserre a, paraît-il, donné des doutes à son fiancé au sujet de la véritable nationalité de Madame de Ronchet. Reichensfeld fronça le sourcil. Ennuyeux, ça, évidemment. Mais enfin, ils n'ont pas de preuves. Ils ne peuvent pas en avoir, puisque tous les papiers de Walter Hoffel étaient en règle. Sur ce point, peut-être. Mais Mademoiselle de Valserre pourrait apporter de désagréables précisions sur certains sujets. Par exemple, si elle sait qui avait si bien préparé les caves du château de Vanel pour approvisionner au passage les troupes allemandes en marche sur Paris, cela ne doit pas être ignoré dans la contrée, et il suffit que la jeune personne ait parlé à quelqu'un du pays. Friedrich de Reichensfeld laissa échapper un juron. C'est vrai, elle peut le savoir. Pour le moment, d'après ce que j'ai compris, sa mémoire est en défaut, sur ce point-là comme sur d'autres. Monsieur de Pinvalas n'a que de vagues soupçons. Mais il se pourrait que le voile s'écartât subitement, que la jeune fille se souvînt de tout. Le baron étendit les bras et laissa retomber son poing sur la table qui craqua. Ce serait du joli, surtout si, comme le craint Madame de Ronchet, Madame Mühlbach avait fait des confidences à sa nièce. Oui, elle m'a laissé voir ses inquiétudes à ce sujet. Pour le moment, Monsieur de Pinvalas n'a certainement aucune défiance à mon égard. Il se montre parfaitement cordial pour moi, très naturel. Mais si Mademoiselle de Valserre connaît par hasard quelque chose de la vérité, si un beau jour la mémoire lui revient, ce serait terrible pour nous, terrible. Comment prévenir une telle catastrophe? Voyez-vous un moyen, monsieur le baron? Madame de Ronchet m'a dit, quand elle est venue, monsieur de Reichensfeld saura bien, lui, vous délivrer de ce danger. Le baron eut un rictus qui lui donna tout aussitôt une physionomie diabolique. Et je ne demande que cela, parce que, en même temps, je pourrais satisfaire ma vengeance. Vous ne pensez pas, Elmer, que je sois venu ici pour rien, pour le simple plaisir d'une villégiature sur la côte bretonne? C'est dans un but bien précis que je n'ai pas même attendu le temps déclaré nécessaire par le médecin, que j'ai affronté les périls de cette traversée en sous-marin, que je me cache dans ce lugubre logis. C'est dans le même but encore que je vous ai demandé de faire poursuivre les travaux de déblaiement dans ces souterrains. Je veux, vous entendez, Elmer, je veux que nous puissions arriver sous Runesto, et qu'un jour, des explosifs bien disposés fassent sauter, dispersent aux quatre vents le château, ses habitants, et en particulier ceux que je hais de toute mon âme, le marquis de Pinvalas et sa fiancée. Il se redressait, les traits crispés, une flamme terrible dans le regard. Elmer sursauta. « Mais, monsieur le baron, vous n'y pensez pas, c'est impossible. Après cela, notre secret serait aussitôt découvert, car naturellement on ferait des recherches pour connaître la cause. Vous ai-je dit que je ferais ce coup-là maintenant? Non, j'attendrai, jusqu'à la fin de la guerre s'il le faut. Pourvu que j'aie mon heure, je serai patient. Mais je veux être ici pour guetter le moment. Et vous, Elmer, il faut que vous soyez sur vos gardes, au cas où le châtelain de Runesto aurait idée de quelque chose. Il est bien dommage que vous n'ayez pu faire entrer dans la domesticité du château quelqu'un à votre dévotion. Impossible, il n'y a là comme serviteurs que des gens du pays, dévoués de père en fils au Pinvalas. Ah, c'est maintenant qu'une Elsa Hoffel nous rendrait là un fameux service. Oui, mais enfin il faut nous contenter de ce que nous avons, donc surveillance aussi active que possible de ce côté. Voyez à rencontrer souvent le marquis, pour remarquer s'il se produit quelque changement dans son attitude à votre égard. Dites à Léonard et à Mina de faire parler, si possible, les serviteurs du château. Puis préparons tout, sans tramer, là-dessous. De l'index, Reichensfeld désignait le sol. Il faut trouver cette autre sortie des souterrains. Il faut atteindre Runesto. Parce que, Elmer, dès l'instant où nous saurions que l'on a des soupçons sur ce qui se passe à Kereven, eh bien, mon cher, Runesto et ceux qui l'habitent auraient vécu. Elmer approuva de la tête. Comme cela, oui, et nous détruirions ensuite toute notre base de ravitaillement. Il le faudrait bien, puisque de toute manière elle nous deviendrait inutilisable. Mais j'espère que nous n'aurons pas besoin d'en arriver là, que mademoiselle de Valser ne sait rien à ce sujet. Kereven servira encore à nos submersibles jusqu'à la fin des hostilités. Quant à moi, j'attendrai un peu plus ma vengeance, mais je l'aurai cette fois, oui, de façon ou d'autre. » Et la lueur diabolique brilla de nouveau dans sa prunelle. Elmer murmura. « Je comprends. Je comprends que l'on ne puisse pardonner au rival qui vous enlève une femme comme celle-là, car j'ai été positivement ébloui par la beauté de cette jeune fille. On ne peut vraiment rêver rien de plus séduisant qu'elle. » Reichensfeld crispa les lèvres. Il se leva brusquement, saisit la canne placée à sa portée de sa main et fit quelques pas à travers le salon. Puis il revint à Elmer, qui le considérait d'un air songeur. « Je vais écrire à Madame de Ronchet pour la prévenir de se bien tenir sur ses gardes et d'être prête à filer au cas Mademoiselle de Valser ferait des révélations compromettantes. C'est en effet prudent. Allons, je vous laisse maintenant, monsieur le baron. Avez-vous bien tout ce qu'il vous faut? Mais oui, merci. » Il ne me manque que la faculté d'aller et revenir à ma guise. Cependant, je ne puis, tel que je suis maintenant, user du même stratagème que Spitzfahrer. Ainsi donc, il me faut attendre à la nuit pour prendre l'air et faire un tour au dehors. Oui, c'est indispensable, monsieur le baron. Mais des promenades en mer ne vous diraient-elles rien? Nous pourrions en faire parfois. Excellente idée. Oui, Elmer, nous verrons cela. On n'y trouvera rien de suspect puisque vous en avez l'habitude, m'avez-vous dit. « Certainement. Dès le début de mon séjour ici, j'ai entrepris de ces promenades nocturnes, en prenant pour pilote ce vieux marin dont je vous ai parlé. Puis, quand j'ai connu les passes, aussi bien que lui, je me suis passé de sa compagnie et j'ai emmené ma femme, dont la neurasthénie se trouvait très bien dans ses petites excursions. » Il se mit à rire, et Reichensfeld lui fit écho. Elmer ajouta. « Vous voyez donc, monsieur le baron, qu'il n'y avait pas lieu de se défier de ces paisibles promeneurs quand, à certains jours, ils allaient au-devant des barques chargées d'étacher des vaisseaux allemands pour les guider vers Kereven. En effet, tout était bien préparé. On rend d'ailleurs en haut lieu pleine justice à l'œuvre que vous accomplissez ici, Spitzfahrer et vous. Je le sais de source sûre, et vous serez un jour impérialement récompensés tous deux. » Elmer se redressa, avec une expression d'orgueil sur la physionomie. Le baron poursuivit, tout en frappant de petits coups avec sa canne sur le tapis. « C'est pourquoi il faut tout faire pour éviter que soit compromise une œuvre pareille, fruit du patient labeur de tant d'années. Nous en causerons encore. Kereven servira encore à nos submersibles jusqu'à la fin des hostilités. Quant à moi, j'attendrai un peu plus ma vengeance, mais je l'aurai cette fois, oui, de façon ou d'autre. » Et la lueur diabolique brilla de nouveau dans sa prunelle. Elmer murmura. « Je comprends. Je comprends que l'on ne puisse pardonner au rival qui vous enlève une femme comme celle-là, car j'ai été positivement ébloui par la beauté de cette jeune fille. On ne peut vraiment rêver rien de plus séduisant qu'elle. » Reichensfeld crispa les lèvres. Il se leva brusquement, saisit la canne placée à sa portée de sa main et fit quelques pas à travers le salon. puis il revint à Elmer, qui le considérait d'un air songeur. « Je vais écrire à Madame de Ronchet pour la prévenir de se bien tenir sur ses gardes et d'être prête à filer au cas Mademoiselle de Valserre ferait des révélations compromettantes. C'est en effet prudent. Allons, je vous laisse maintenant, monsieur le baron. Avez-vous bien tout ce qu'il vous faut ? Mais oui, merci. Il ne me manque que la faculté d'aller et revenir à ma guise. Cependant, je ne puis, tel que je suis maintenant, user du même stratagème que Spoutzfahrer. Ainsi donc, il me faut attendre à la nuit pour prendre l'air et faire un tour au dehors. Oui, c'est indispensable, monsieur le baron. Mais des promenades en mer ne vous diraient-elles rien ? Nous pourrions en faire parfois. Excellente idée. Oui, Elmer, nous verrons cela. On n'y trouvera rien de suspect puisque vous en avez l'habitude, m'avez-vous dit. Certainement. Dès le début de mon séjour ici, j'ai entrepris de ces promenades nocturnes en prenant pour pilote ce vieux marin dont je vous ai parlé. Puis, quand j'ai connu les passes, aussi bien que lui, je me suis passé de sa compagnie et j'ai emmené ma femme, dont la neurasthénie se trouvait très bien dans ses petites excursions. Il se mit à rire et Reichensfeld lui fit écho. Elmer ajouta « Vous voyez donc, monsieur le baron, qu'il n'y avait pas lieu de se défier de ces paisibles promeneurs quand, à certains jours, ils allaient au-devant des barques chargées d'étacher des vaisseaux allemands pour les guider vers Kéréven. En effet, tout était bien préparé. On rend d'ailleurs en haut lieu pleine justice à l'œuvre que vous accomplissez ici, Spoutzfahrer et vous. Je le sais de source sûre, et vous serez un jour impérialement récompensés tous deux. » Elmer se redressa, avec une expression d'orgueil sur la physionomie. Le baron poursuivit, tout en frappant de petits coups avec sa canne sur le tapis. « C'est pourquoi il faut tout faire pour éviter que soit compromise une œuvre pareille, fruit du patient labeur de tant d'années. Nous en causerons encore. Peut-être trouverons-nous une bonne solution. À tout à l'heure, Elmer. » Et monsieur le baron de Reichensfeld se laissa retomber dans son fauteuil.